Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
À quel moment vas-tu endosser la responsabilité totale de la suite de ta vie et surtout, pourquoi tu veux le faire? Allez, c'est parti. Bonjour, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Cheveux Blancs et Idées Longues, le podcast dans lequel nous parlons d'entrepreneuriat, même à 40 ans, même en étant sur Internet, alors qu'on nous dit que c'est pas trop pour nous et qu'on est un petit peu foutu. Dans ce podcast, je vais aborder les meilleures stratégies pour construire le business et la vie de tes rêves. Ce podcast creuse des sujets comme le marketing, l'entrepreneuriat, l'organisation, l'état d'esprit, la forme et la santé aussi. Car, qu'on se le dise, quand on a dépassé 40 ans, la santé, bah, c'est encore plus important que quand on est plus jeune. Bah oui, parce qu'on récupère moins bien, on a cette pression aussi hein, qui peut venir un petit peu sur se dire, bah tiens, en vieillissant, qu'est-ce qui va pouvoir m'arriver? Tiens, et d'ailleurs, c'est un petit peu le sujet du jour. Qu'est-ce qui va pouvoir m'arriver en vieillissant? Et ça me fait penser à ce plan de vol, alors le plan de vol de notre vie, le plan de vol. Ouais, c'est un bon parallèle. Et en fait, quel est le plan de vol qui a été écrit pour nous et par qui il était écrit en fait? Et à quel moment tu as écrit vraiment ton plan de vol? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que tu as écrit ton plan de vie réellement? Qui t'a écrit ton plan de vie? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est la société? Ou est-ce que c'est tes parents? Ça, c'est une vraie question. À quel moment tu endosses ou à quel moment tu as vraiment endossé la responsabilité totale de choisir ton plan de vol et donc ton plan de vie? C'est-à-dire ce que tu veux faire, et non vraiment ce qu'on t'a dit que tu devais faire. C'est une réflexion que j'ai eue il y a pas mal de temps, et puis des discussions récentes, encore hier, me l'ont confirmé. Cette histoire que finalement, il y a certaines choses que je vois en moi, par exemple comme des défauts, qui sont finalement des défauts que je vois par rapport à ce qu'on attend de moi. Il y a des choses que je pense qu'on attend de moi. Et notamment, il y a des choses qu'on attend de moi sur la vie que je dois construire. Et je parle souvent de la roue de hamster qui a été construite par d'autres. Ce fameux métro, boulot, dodo. Et plus largement, finalement, cette vision de la société qui est de dire qu'il faut investir dans le présent en espérant un mieux futur. Si tu as lu certains livres, notamment je parle Père riche, Père pauvre, dont à un moment donné, il parle, est-ce que finalement investir dans les études est le meilleur investissement? Cette question est très intéressante. L'idée, c'est de dire que j'investis dans mon éducation quand je suis jeune. Alors, j'investis au départ du temps, quand je suis enfant, pour apprendre des choses. Et au fur et à mesure, je vais investir beaucoup de temps dans mes études et même de l'argent quand on fait des écoles pour avoir un travail. Ensuite, j'investis du temps dans mon travail pour avoir quoi? Une maison, de quoi une vie confortable, mais aussi pour avoir une retraite. Et finalement, est-ce que c'est le meilleur investissement? Est-ce que c'est le bon investissement? C'est une question qui est compliquée, hein. C'est difficile de répondre à cette question-là. Mais en tout cas, c'est l'investissement qu'on nous propose depuis que nous sommes tout petits. Ma fille qui a 5 ans et demi, assez tôt, il y a des personnes qui ont demandé, qui ont commencé à lui poser la question de dire « Tiens, qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu seras plus grande ?» Et la question qui lui est posée, quand on lui demande « Qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu seras plus grande ?» c'est plutôt « Quel métier tu as envie de faire ?» Et déjà, elle se projette dans des métiers et non pas dans « j'ai envie de soigner les gens ». Moi, je veux être docteur, c'est-à-dire des étiquettes. Alors des fois, elle va dire « oui, je veux soigner des gens, je veux faire ça, etc. » Mais souvent, elle se colle une étiquette. Et dans l'étiquette, parfois, elle ne sait pas ce que c'est que salarié, entrepreneur, quoi que ce soit. Mais selon les étiquettes qu'elle veut prendre, etc., ça va décider peut-être de son futur, en tout cas, selon les étiquettes qu'on va lui coller. Et selon les étiquettes qu'on va lui coller. Et moi, je me garde bien d'essayer de lui coller des étiquettes. À 5 ans et demi, j'ai pas envie de lui coller une étiquette maintenant, j'ai juste envie qu'elle soit libre dans son futur. Mais je me rends compte à quel point cette chose-là, que je viens de dire, est compliquée pour moi-même. Et je regarde en fait maintenant ma vie, telle que je la vis, telle que je l'ai construite, et tous les choix que j'ai faits. Et à quel moment en fait j'ai vraiment décidé, de ce que je voulais faire vraiment. Je me rappelle une discussion que j'ai eue quand j'étais au lycée et on me disait passe ton bac et ensuite tu pourras décider. Mais décider de quoi? C'était passe ton bac et puis ensuite tu choisiras tes études. D'accord, j'ai passé mon bac et j'ai choisi mes études. Bon, un petit peu par défaut, j'ai fait la gestion. Et puis, s'est posé la question, on m'a dit, maintenant que tu as fait ça, il faut continuer. Tu as 2 ans, tu as un diplôme de 2 ans, maintenant il faut continuer. Ce serait bien d'avoir bac plus 5. Ce choix-là, en fait, je l'ai pas vraiment fait. Ce choix-là, en fait, il m'a été imposé. Globalement, il m'a été imposé. Comment j'ai choisi Oh, très difficilement, mais en fait, j'ai pris un petit peu ce qui me semblait le plus ouvert, le plus sympathique, etc. Et puis, à la fin, si, j'ai fait un choix quand même, mais j'avais le choix entre, finalement, travailler dans tel ou tel domaine, et j'ai choisi un petit peu par défaut, finalement, de dire, bah tiens, je vais dans tel domaine, ce qui me plaisait le plus. Toujours comme ça, un petit peu, et puis je me suis embringué dans une vie de salarié, en changeant une fois de société, une deuxième fois, et puis en allant dans une collectivité, jusqu'au ce moment-là où ce truc-là explose. Et il explose parce que moi, la vie que je vivais ne me plaisait pas, parce que j'étais harcelé au boulot, parce que j'étais totalement déprimé, parce que j'étais ce gros hamster qui tourne dans sa roue et qui ne sait même pas pourquoi il tourne dans sa roue, parce que finalement sa roue ne le mène nulle part. Et finalement, ce modèle-là, il a marché pendant des années, mais il explose quand tu te rends compte que l'investissement n'est peut-être pas le bon, que tu gâches peut-être les plus belles années de ta vie dans l'espoir de profiter peut-être de quelque chose plus tard. Mais profiter de quoi ? C'est difficile à dire quand on regarde l'actualité, quand on nous promet réforme des retraites, monde tel qu'il avance, etc. Quel va être l'état du pays dans 25 ans ? Bah oui, parce que quand je parle de retraite, moi dans mon cas, je parle peut-être à 25 ans. Et pourtant, en fait, il y a toujours des gens qui veulent nous remettre dans ce schéma-là. Par exemple, ma maman, il n'y a pas longtemps, discussion, et puis ça arrive régulièrement, quand on dit qu'on peut avoir des difficultés, il y a des choses qui ne marchent pas aussi bien, que je ne gagne pas aussi d'argent que ce que je pensais, etc., que c'est un peu compliqué, qu'il y a un client qui n'est pas payé, que, par exemple, sur les podcasts, je devais avoir tant d'argent en sponsoring et que finalement j'en ai un petit peu moins. Toutes ces questions-là, comme ça, qui touchent finalement aux revenus et à la difficulté d'avoir des revenus réguliers, prévisibles, etc. Parce que ça peut être le cas, et c'est le cas de l'entrepreneuriat. Il y a des jours où ça se passe bien, puis il y a des semaines où ça se passe pas bien. Hein. Je parlais dans le précédent épisode de la petite musique de la caisse enregistreuse qui dit qu'on vend des choses. Cette semaine, par exemple, la caisse enregistreuse, je l'entends pas. Donc ça remet un peu la pression. Bah oui, j'avais fait une offre pendant un certain temps. Quand l'offre est terminée, bah il y a moins de ventes. Et donc si je voulais entendre la caisse enregistreuse, faut que je relance des ventes, mais j'ai d'autres choses à faire, etc. Et bah il y a un moment donné, quand je suis dans cette situation-là, qu'est-ce qui se passe ? Le premier réflexe, c'est de me dire, t'as vu, dans tel service, ils embauchent. T'as vu, ici, ils embauchent. T'as vu, tu pourrais postuler là-dedans. Ah dis donc, ils cherchent beaucoup de professeurs, ils font beaucoup ça. Systématiquement, en fait, on me ramène en me disant, non mais c'est bien ce que t'as fait jusqu'à maintenant, mais tu devrais retrouver un maître salarié. Et bon, je parle de ma maman qui a 74 ans, voilà. Mais en fait, il y a une autre anecdote, c'est que une autre personne comme ça, qui, franchement, elle a, je parle pas de parents, hein, elle a à peu près un peu plus jeune que moi, un peu plus jeune, et qui a exactement la même réflexion quand on lui parle, etc., qui dit vous devriez peut-être chercher un emploi salarié. Et en fait, ce qui est assez curieux, c'est que cette personne, elle a le même type de parcours. C'est-à-dire qu'en fait, elle a, elle est déjà, elle est pas salariée, elle a plutôt un fonctionnement qui est indépendant, mais elle a investi aussi pour se former sur de nouvelles pratiques, pour évoluer dans de nouveaux métiers, etc. Mais actuellement, elle a quand même un revenu récurrent du fait de son métier actuel. Donc elle s'est formée sur un futur métier qui est difficile à lâcher, mais elle a investi aussi parce qu'elle voulait vraiment faire, peut-être aller sur un autre métier. Et à chaque fois qu'on lui pose la question de dire mais pourquoi vous basculez pas sur votre nouveau métier, ou alors en tout cas aller sur le nouveau métier, on sent qu'à un moment donné c'est difficile et qu'elle n'aime pas qu'on lui en parle. Et en fait ça peut s'expliquer, je vais pas la juger, parce que il y a de la difficulté à lâcher un métier actuel qui rapporte de l'argent, qui assure un train de vie. On peut dire qu'elle est peut-être accro, hein, ou peut-être piégée dans son revenu actuel, son mode de vie actuel, avec les enfants, avec crédit de maison, avec les voitures, avec une clientèle qui est déjà là, avec finalement la sécurité de savoir que quoi qu'il va se passer à peu près, à quelque chose près, il y aura toujours des revenus à la fin du mois, parce que ton activité fait qu'il y a toujours des clients qui viennent, qui arrivent, etc. Voilà. Bon, bref, ça peut être comme ça. Ça peut expliquer aussi la peur de se lancer dans aussi, finalement, une incertitude. Comment je vais gagner de l'argent? Est-ce que je vais trouver des clients? Comment je peux avoir des nouveaux clients? Comment je vais me faire connaître, etc.? Est-ce qu'il faut que je change de lieu où j'exerce? Est-ce qu'il faut que je mette en place un nouvel endroit pour recevoir mes nouveaux clients, etc.? Tout un tas de questions peuvent se poser. Et puis on peut avoir la douleur aussi de se dire que peut-être je suis pas si compétent que ça, peut-être que ce que j'ai appris, est-ce que je suis vraiment capable de m'en servir. L'envie initiale, hein, qui m'a amené à me former, finalement devient un petit peu masquée par la peur que j'ai de ne pas exercer comme il faut, que ça me plaise pas tant que ça, que je perde plus que j'ai à gagner. Et ça, c'est vraiment intéressant comme question à se poser. Et l'évolution de cette situation, elle ne viendra que par un choix en fait. Il y a un choix qu'elle doit faire, cette personne-là, c'est le courage de traverser une nouvelle zone, peut-être, de turbulence. Voilà, peut-être que ça va créer des turbulences. Peut-être que en fait, elle va devoir se priver sur un temps de temps, peut-être d'argent, peut-être changer de lieu, peut-être ça crée des déménagements, peut-être de dire pendant un certain temps, ça va être moins facile au niveau de financier, peut-être moins facile au niveau du temps, au niveau de temps de famille, etc. Et pourtant, elle a de quoi s'y préparer probablement. Bien sûr, sa formation dans une nouvelle, dans un nouveau métier lui a coûté de l'argent, mais actuellement, elle a à nouveau des revenus, peut-être qu'elle peut économiser, peut-être qu'elle a l'appui de la famille, peut-être que son conjoint peut l'aider sur des choses, je ne sais pas, je n'en sais rien en fait. Mais ces questions-là, en fait, quand on regarde d'autres personnes qui viennent nous donner des conseils, souvent elles nous donnent des conseils, mais elles ne voient pas aussi ce que nous pouvons faire. Est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous pouvons faire, quel est notre entourage, est-ce qu'on peut évoluer dans tel sens, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et à chaque fois, en fait, je me dis toujours la même chose, c'est que quand on regarde le choix qu'on a face à nous et quand on regarde les difficultés, on a toujours cette pression qui revient, ce réflexe de société qui est de considérer que le salariat devient la seule solution ou en tout cas la solution la plus rapide et la plus sûre pour gagner de l'argent. Que quand les choses ne vont pas comme tu veux, peut-être c'est aussi ce que tu penses. Et le plus dur, c'est d'oser faire le choix et donc d'endosser la responsabilité. Peut-être d'ailleurs de contrarier ton idée de départ quand tu t'es lancé dans un métier, quand tu as fait tes études. Parce que c'est vrai que finalement, quand on y pense, et je pense à cette personne-là qui a fait des études pendant pas mal d'années au départ pour avoir son premier métier, eh ben à un moment donné, si elle fait le choix d'en faire un autre, ça veut dire que elle se dit ben, tout le temps que j'ai investi les premières années, le temps, l'argent que j'ai investi dans mes années en tant qu'étudiante, etc., pour payer son école, pour payer tout ce qui allait autour, pour peut-être faire une croix sur, je sais pas, des projets sportifs, son niveau sportif, peut-être plein de choses, peut-être des vacances, peut-être beaucoup de choses qu'elle aurait pu faire, peut-être du temps avec ses copines, ses amis, peut-être beaucoup de choses, t'es contrarié, et peut-être même des relations amoureuses, je n'en sais rien. Et ben peut-être que maintenant se dire, je vais faire autre chose, c'est de peut-être se déjuger en tout cas, de se dire, mais pourquoi j'ai fait tout ça? Et donc de dire, j'ai peur de perdre tout ce que j'ai construit jusqu'à maintenant. La peur de perdre est toujours beaucoup plus grosse, parce que en fait, on n'aime pas la peur. C'est un biais psychologique. On n'aime pas perdre des choses. Donc, on a cette peur-là, enfin, toujours de perdre quelque chose qui est toujours plus forte que l'envie de gagner quelque chose. Et donc, peut-être que c'est ça qui la gêne, elle, dans cette personne-là. Tout simplement. Et je n'en sais rien, en fait. Qu'est-ce qui pourrait dedans? Parce que je ne vais pas la coacher, parce que je ne vais pas la rencontrer, parce que quand je la croise, maintenant, c'est pour autre chose. Et je ne vais pas te dire, bah tiens, on pourrait discuter de ça ou quoi que ce soit. C'est pas le lieu en fait, et puis c'est seulement si elle demanderait, donc c'est pas mon rôle en fait, c'est pas mon rôle. Mais en tout cas, ce qui me pose question, c'est pourquoi à chaque fois que quand on dit on a des difficultés, c'est pas aussi facile que ce qu'on pensait, il y a des choses qui se passaient de telle manière, on a du mal, etc., pourquoi en fait les personnes nous ramènent toujours en nous disant, mais peut-être que vous pourrez devenir salarié, c'est-à-dire nous, finalement, faire une croix sur l'investissement que nous avons fait, sur nos désirs de faire autre chose, notre désir peut-être d'exercer un métier qui nous plairait plus, etc. Pourquoi on doit faire une croix dessus pour revenir sur le salariat systématiquement, et d'ailleurs dans des domaines où, franchement, on n'a aucune envie d'aller, quoi. C'est-à-dire que quand on me dit, tu peux aller gérer, tiens, il y a le truc qui gère les retraites, qui cherche des gens, mais pour faire quoi? Pour faire de l'accueil au guichet, pour gérer des dossiers, pour avoir des gens qui se plaignent, etc. À quel moment j'ai envie de faire ça pendant les 25 ans de carrière qui me restent, probablement, on va dire, hein, si je devais attendre ma retraite. À quel moment je peux avoir envie de faire ça? On me dit, bah tiens, tu pourrais retourner dans l'enseignement. On me dit pas l'enseignement universitaire. T'as vu, les lycées professionnels, ils embauchent. À quel moment j'ai envie d'aller dans un lycée pour apprendre à des enfants, des adolescents, telle ou telle matière, à laquelle d'ailleurs je ne connais rien. Et finalement, je serais balancé dans un truc, dans une matière que je ne connais rien, face à des étudiants que je n'ai pas envie de voir, des jeunes que je n'ai pas envie de voir, dans un métier que je n'ai pas envie de voir. À quel moment, en fait, j'ai vraiment envie de faire ça? Et pourtant, si j'écoutais la pression de la société, la pression des parents, de l'entourage, etc., eh ben, c'est cette pression-là, me dirait, tu dois aller faire ça. Car c'est finalement le message que j'ai toujours entendu, que j'ai toujours entendu. Et en fait, je dis pas qu'il est totalement faux, hein, ce message de dire le salariat est une solution. Et je dis pas que c'est totalement faux. Mais en fait, je me demande, c'est la question qu'il faut te poser, parce que moi, je me suis posé ces questions, mais toi, est-ce que tu t'es posé ces questions? Est-ce que c'est vraiment ce chemin-là dont tu as envie? Est-ce que c'est vraiment comme ça que tu veux finir ta carrière? Est-ce que c'est vraiment ce mode de vie que tu veux? Et est-ce que finalement, c'est ce que t'as, qu'est-ce que t'as envie vraiment de faire? Et à chaque fois, tu sais, il y a toujours des freins. Et les freins, ils sont nombreux. Si je prends la personne dont je parlais tout à l'heure qui ne se lance pas, elle peut avoir des freins, en fait, qui viennent de dire, eh ben, mon idée de départ, c'était de faire ça, ce métier, etc. J'en ai rêvé, j'ai travaillé là-dedans, j'ai acquis une expertise, j'ai fait créer une clientèle, etc. Je vais avoir des nouvelles difficultés. Et donc, finalement, bah, je laisse finalement ce mode de vie que j'ai actuellement. Je laisse mon ancien moi aussi, qui avait décidé de faire ce métier-là. Peut-être d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi elle a choisi ce métier-là, peut-être parce que c'est ce qui lui semblait le plus facile, le plus logique, ce qu'elle pouvait préférer. Donc elle laisse son ancien elle, qui finalement a fait ce choix de vie-là, guider la suite, tout simplement. Mais ça peut être aussi, peut-être qu'elle laisse ses confrères actuels guider ce choix. Peut-être ses confrères dont elle entend, elle dit « Ah oui, mais tu sais, ce métier-là, c'est peut-être pas si facile que ça, c'est peut-être pas si bien que ça, et puis ils ont pas ce statut-là, et puis le gouvernement va peut-être les réduire là-dessus, etc. » on peut entendre ce genre de message-là. Et puis, elle peut être guidée par une petite peur qui est la peur de mal faire. Se dire que finalement, elle maîtrise très bien le métier actuel et que d'aller sur un nouveau métier, eh ben, il faudra apprendre des nouvelles choses. Il faut créer des nouvelles choses. Il y a peut-être des erreurs qu'elle peut faire. Peut-être qu'elle fera mal des choses. Peut-être qu'elle s'occupera pas aussi bien des clients qu'elle aura dans son nouveau métier que ce qu'elle peut le faire maintenant. Parce qu'elle sait avec l'habitude que maintenant, quand elle fait des choses, c'est efficace. Mais est-ce que ce sera aussi efficace de le faire avec d'autres personnes, d'autres méthodes, d'autres techniques, etc. Et peut-être qu'elle a peur autant au fond d'elle, finalement, de ne pas réussir et de ne pas arriver à faire comme elle veut le faire. Tout ça, en fait, ben, y a des peurs, c'est une balance. Les peurs, les envies, le confort actuel qu'on peut avoir, etc. Ce qui fait que c'est très compliqué et que finalement, le choix de faire quelque chose, eh ben, souvent, on ne le fait pas, en fait. Ou alors, on le laisse à d'autres, peut-être à notre entourage, peut-être à la société globale qui... On a laissé ce choix finalement s'installer et d'autres ont fait ce choix pour nous. Ou alors ce choix a été fait par un ancien nous il y a très longtemps et que finalement on est un peu coincé parce qu'on n'a pas trop envie de trahir cet ancien nous qui a fait ce choix-là. Et alors que pourtant, finalement, c'est reste de notre ancien nous, il viendra pas te taper sur le dos en disant « T'as vu, attends, j'ai fait ça et tout, tu vas pas arrêter de faire ça maintenant ?» Oui, il va revenir. Oui, peut-être que dans quelques temps, si ça marche pas comme on veut, on dira « Mais pourquoi j'ai fait ce truc-là ? Pourquoi j'ai fait ce truc-là » Et ça, c'est... Le pourquoi, c'est le cœur de la question que tu vas te poser. Pourquoi tu as envie d'entreprendre? Pourquoi tu as envie de créer du contenu? Pourquoi tu aurais envie de te lancer, par exemple, dans une nouvelle activité? Pourquoi tu aurais envie de lancer une seconde activité? Pourquoi tu as envie de lancer un side business? Pourquoi tu aurais envie de lâcher un boulot pour aller, je sais pas, ouvrir une maison d'hôte ou aller te lancer dans les soins pour devenir coach? Pourquoi tu aurais envie de laisser un boulot dans la banque, dans l'assurance qui est bien payée? Pour aller, faire du coaching. Je dis ça totalement au hasard, mais ça fait partie des cas qu'on peut croiser. Pourquoi tu voudrais faire ça? Ce pourquoi, à mon avis, ça peut pas être l'argent. Parce que déjà, l'argent, ça te garantit pas. Rien ne te garantit que tu retrouveras le revenu que tu as maintenant. Rien ne te le garantit. C'est pas parce que tu vas entreprendre que tu vas avoir ce revenu plus facilement, plus rapidement, le même revenu, que tu gagneras plus ou que tu gagneras moins. Personne ne peut te dire. Personne ne peut te garantir quel est le revenu que tu auras dans un mois, deux mois, six mois, si tu te lances maintenant. Alors, c'est sûr que s'il y en a, il y a des personnes qui peuvent te garantir le revenu que tu auras dans six mois, c'est que si tu restes, si tu es salarié et que tu as un CDI, normalement dans six mois, tu sais que tu auras le même revenu. Tu le sais. Tu sais pas dans quelles conditions, tu sais pas si tu as un chef qui va débarquer, tu sais pas quel est le mode, l'évolution de la société dans laquelle tu travailles, tu sais pas ce qui peut se passer. Ça peut changer à tout moment. Ça peut changer à tout moment, la sécurité de l'emploi, etc., qu'on nous ont promis nos parents dans lequel ils étaient. Moi, j'ai vu mes parents, eux, ils sont rentrés à tel âge dans une entreprise et puis ils ont fait toute leur carrière dedans. Bien que, tu sais, mon père, il y a un moment donné, mon père, pour l'anecdote, il a travaillé chez Michelin pendant quasiment toute sa carrière, mais à un moment donné, il a fait un choix quand même. Il aurait pu travailler dans les mines, sa famille travaillait dans les mines, et les mines, en fait, ont fermé, et donc le choix qui a été fait, c'était de dire... Ben finalement, il y a d'autres entreprises qui embauchent, il y a Michelin et tout. Plutôt que d'aller rester dans les mines, tu pourrais faire ça. Son frère n'a pas fait ce choix-là. Son frère a décidé de rester dans les mines. Pour l'anecdote, son frère était à la retraite à 40 ans. Quand mon père était à la retraite à plus de 60 ans. Hein, voilà. Donc, ce sont des choix qui ont été faits, hein, qui ont été faits de cette manière-là. Et c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Mais il y avait un choix qui ne pouvait pas être fait. C'était le message que j'entendais beaucoup, c'est de dire non, mais le choix de l'entrepreneuriat, par contre, il est risqué parce que tu sais, ton grand-père, c'était un très bon artisan, il était un petit artisan indépendant, etc. Mais en fait, il aimait tellement son métier, il y avait tellement d'applications pour le faire dedans qu'il a jamais réussi à en vivre de ça, donc il est redevenu salarié. Et donc finalement, bah moi, la question qui s'est souvent posée quand j'ai voulu devenir indépendant, entrepreneur, etc., c'était de dire bah finalement, est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que j'ai le droit de trahir finalement un petit peu tous ces messages que j'ai pu entendre? Est-ce que je vais réussir? Ou est-ce que finalement je n'ai pas ce poids de dire, ben finalement est-ce que je serai pas comme mon grand-père qui finalement aime tellement bien les petits trucs, les précisions, etc. Et que il aimait tellement faire ça, mais pas vraiment facturer les gens, pas leur vraiment leur demander suffisamment d'argent par rapport au métier qu'il faisait. Est-ce que finalement, ben moi je serai pas comme lui? Parce que finalement, c'est un petit peu ce qu'on m'a laissé entendre par l'éducation, par le modèle, par cette histoire qui se répète. Tu sais, le storytelling familial. Si tu reprends les histoires, le storytelling familial, il y a le storytelling que tu te crées toi par rapport à ton parcours, par rapport à ce que tu as vécu. Et puis, il y a le storytelling familial. En te disant, bah moi, je suis arrivé à tel truc, etc. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il y en a plein du storytelling familial. Par exemple, du storytelling familial, j'ai entendu l'histoire de dire, ah bah nous, quand on était jeunes, etc., on a commencé à avoir un enfant, à ce moment-là, on a décidé de faire un métier. Ce métier-là, bah c'était le choix. Alors, c'est mon père qui m'a amené pour l'employeur, j'ai fait mon apprentissage là-dedans. Et puis après, on a pu commencer à dire, on avait un appartement, on a voulu faire une maison. On économisait sur, en économisant, on n'achetait pas de la limonade hein, pendant les 5 premières années, on a acheter limonade pour pouvoir payer la maison, etc. et tout. Ce storytelling là, il veut dire quoi? Il veut dire bah écoute, tu vas te priver de ça pour payer ça, ça et ça et tout. Mais on faisait beaucoup d'heures, moi je partais très tôt le matin, je rentrais très tard le soir et tout. Donc tu dois souffrir au boulot peut-être, tu vois, comme il avait souffert, etc. Donc ce storytelling familial en fait, il est là en fait, il est ancré en nous, il est dans nos cellules, il est tout au fond de nos cellules. Le pire c'est qu'on le transmet en fait quand on discute un petit peu avec les gens, quand on s'intéresse un petit peu à la psychologie, quand on s'intéresse un petit peu à différentes choses, quand on discute un petit peu avec d'autres personnes, avec des coachs et tout, tu peux te rendre compte que finalement il y a plein d'histoires, plein de storytelling familiaux, sociétaux, etc. qui sont inscrits en toi. Et en fait, on s'en rend même pas compte. Même moi, tu vois, qui ne crois pas en Dieu, je me rends compte à quel point, des fois, le storytelling religieux qui baigne notre pays depuis des siècles et des siècles est important, notamment sur, tu sais, on pourrait dire, faut bien se comporter sur telle chose, il y a ça, la relation à l'argent. La relation à l'argent, par exemple, de la France, des Français, est très impactée, finalement, par la religion, telle que la religion a construit le storytelling autour de l'argent, des péchés capitaux, etc. Si tu vas dans des très anciens épisodes, tu trouveras en fait un peu la notion, j'ai déjà parlé des péchés capitaux et à quel point ils avaient structuré, mais c'est aussi pour ça que ça explique que certains pays, par exemple, sont plus commerçants que d'autres, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas la même relation, la même construction, le même storytelling religieux qui n'a pas été créé, etc. Donc, on a plein de choses comme ça. Et pour revenir sur cette notion d'argent, en fait, je le dis pour moi, je pense que tu te dire que devenir entrepreneur ou lancer une nouvelle activité ne doit pas être le seul driver que tu dois avoir. Ça doit pas être ton seul moteur quand tu veux te lancer. Ça doit pas être, l'argent ne doit pas être le seul moteur. Pourquoi? Parce que, en fait, tu n'es jamais sûr, quand tu vas lancer n'importe quelle activité entrepreneuriale, que ça va fonctionner et donc que tu vas avoir de l'argent grâce à ça. Que tu te lances à temps plein ou que tu te lances en side business, donc en deuxième activité, tu gardes ton emploi, tu lances une deuxième activité, tu n'es jamais certain des résultats que l'activité va avoir. Et ça, tu vois, moi je prends ma casquette de préparateur mental là-dessus, c'est pareil que dans le sport, c'est pareil que dans tous les domaines, on n'est jamais 100% sûr du résultat, et même le résultat nous échappe à 80% du temps. Le résultat nous échappe parce qu'il y a un moment donné, le résultat ne dépend pas que de nous. Si tu lances un produit, là, aujourd'hui, ou un service, n'importe quel produit ou n'importe quel service. Imaginons, tu veux te lancer dans le coaching. Tu vas dire, je me suis formé sur telle chose, j'ai appris telle chose et tout, tac, j'ai telle connaissance, j'ai envie de partager telle connaissance, j'ai envie d'aider telle personne. Donc tu vas peut-être décider du persona que tu vas décider, des personnes que tu as envie d'aider. Tu as compris quels sont leurs points de difficulté, leurs points de douleur. Potentiellement, tu as compris ce truc-là, tu dis, peut-être sur ce point-là, je peux les aider. Je vais leur proposer une offre. Dans cette offre, je vais faire ça, 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 ça et ça. Et je vais communiquer autour de ça. Peut-être créer un compte Instagram, un LinkedIn, faire un podcast, des mails, etc. Tout le truc comme ça. Tu vas t'appliquer à faire du contenu peut-être pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. peut-être plusieurs années, tu vas proposer, tu vas commencer, au début tu vas peut-être pas oser, puis tu vas commencer à parler de tes offres, il y a peut-être des gens qui vont venir vers toi en disant « mais qu'est-ce que tu fais, ça pourrait être intéressant, etc. » Et puis finalement, certains peut-être vont dire « ah ouais, ça peut m'intéresser, je suis d'accord. » Puis peut-être finalement, d'autres ils vont dire ils étaient intéressés, mais ils vont jamais, jamais donner leur carte bleue. Et ben en fait, il y a un moment donné, tu vas faire tout ce que tu peux pour les convaincre. Tu vas trouver tous les arguments, tu vas lutter contre toutes les objections, tu vas mettre tout en place, tout le cadre va être en place. Mais la décision, finalement, d'investir, elle est dans la tête de ton client. Elle est dans la tête d'autres personnes. Donc, l'argent qui va se transférer, ça va se transférer parce que, il y a un moment, c'est l'autre personne qui prend la décision. Bien entendu que nous, on va faire du mieux possible pour parler de notre offre, pour dire pourquoi elle est importante, comment on peut aider les gens, quel est le chemin qu'on peut aider à parcourir, quel est le point A, douloureux pour eux, quel est le point B, quelle est l'histoire qu'on va leur raconter, quelle est la nouvelle histoire qu'ils vont pouvoir construire grâce à notre aide, grâce à notre coaching, grâce à nos produits, grâce à nos formations, grâce à nos contenus, etc. Bien entendu, on va faire le mieux que l'on peut pour le faire. On va lutter contre les objections. On va tout faire là-dedans. Mais il y a quand même une décision à un moment donné qui ne dépend pas de nous, qui dépend de notre client. Je vais te donner un exemple, et comme ça tu comprendras mieux. J'ai des personnes, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'estime que j'ai besoin d'avoir du coaching dans certains domaines. Et donc, j'avais été démarché par un ou deux coachs ou potentiels, je les avais repérés, j'ai un peu discuté avec certains, avec leurs équipes, tu sais, de closers, leurs vendeurs. Et puis j'en ai un autre, etc., qui avait commencé à m'envoyer des messages, avec qui j'avais discuté une première fois, et puis une deuxième fois, etc. La première fois, il m'a un peu froissé. Et puis, en fait, après, il m'a rappelé, puis l'autre jour, il m'a renvoyé un message. Et il avait une offre, il n'y a pas longtemps, et je trouvais que l'offre était très intéressante. Franchement, l'offre était très intéressante. Mais j'avais pas vraiment le budget, tu vois, pour faire ça. Et en fait, le budget, je l'ai mis sur quoi? Je l'ai mis sur mon vélo. Sur mon voyage en vélo. Bon, le fait que, par exemple, il y avait son offre en coaching, pour donner l'anecdote, je pouvais la payer en 6 fois. Et en fait, je me dis, ouais, quand même, sur un mois, ça fait cher et tout. Et en fait, le budget du coaching, par exemple, d'un mois, il est passé sur la réparation de ma roue de vélo pendant ma course de vélo. À peu près, tu vois, c'est à peu près réparation plus changement du pneu, changement de la chambre à air, la main d'œuvre, plus, tu vois, manger à côté, enfin, les trucs, et puis si rajouter le train, les déplacements, grosso modo, je pense que l'investissement sur ma course de vélo, je pouvais payer une grosse partie du coaching. Mais le choix que j'ai fait, c'est de dire, non, mais moi, je veux faire un voyage en vélo, je veux faire du bikepacking, je veux faire cette aventure en vélo, 350 km, Paris-Deauville, etc. C'est un choix que j'ai fait, en fait, et c'est un choix que j'ai fait de dire, je veux vivre cette aventure-là, je veux la vivre maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai décidé de la vivre maintenant. Peut-être que l'investissement, peut-être par d'autres, il aurait été vu comme étant totalement débile. Peut-être totalement débile. Probablement que peut-être tu te dis, ah, attends, tu aurais pu investir là-dedans, etc. Pourquoi je le fais de cette manière-là? Peut-être parce qu'on va dire satisfaction immédiate, de dire, ma aventure bikepacking de maintenant, je sais, je peux la faire maintenant, je sais que je pouvais la faire, je ne sais pas si je pouvais la faire un autre jour, je ne sais pas si je devais attendre ma retraite pour la faire, si je pouvais la faire un autre jour. Parce que, pour l'anecdote, quand j'ai fait mon aventure bikepacking de cet été en vélo, j'ai croisé des retraités qui roulaient en vélo comme ça, qui faisaient 3-4 mois à vélo d'affilée. J'ai croisé le premier jour des personnes qui partaient faire les châteaux de la Loire en vélo, qui venaient juste d'acheter des vélos et tout, qui avaient attendu leur retraite, tu vois, et premier jour de leur retraite ou presque, qui partent en vélo. Et puis, mais je sais pas si moi ça sera possible de le faire. Je n'ai aucune idée. Ce que je savais, c'est que maintenant, je pouvais le faire. Cet été, je pouvais le faire. Je pouvais faire ces trucs-là. Et donc, j'ai préféré à ce moment-là une satisfaction de dire, je vais faire cette aventure-là, je vais me challenger là-dessus, etc. Plutôt que de donner de l'argent à cette personne-là pour faire du coaching, en ne sachant pas d'ailleurs quel serait le résultat. C'est-à-dire, je lui ai dit même très clairement les choses. Je lui ai dit, tu sais, moi j'avais prêté le coach à une époque, ça m'a pas apporté ce que je voulais, ça s'est mal passé, sur le complan administratif, en plus il y en a un toujours qui m'a laissé un truc pas cool à gérer et tout. Je lui ai dit, franchement, pourquoi je te donnerais l'argent à toi, j'ai ce frein-là et tout. Et lui, il y peut rien en fait sur ce qui s'est passé moi avec d'autres coachs en fait. Il y peut rien en fait. Si je lui ai pas donné de l'argent à lui, en fait, c'est pas parce qu'il a mal travaillé, c'est parce que moi, dans mon histoire, dans mon parcours, dans ma réflexion, j'ai des choses, en fait, que j'ai décidé de faire autrement. Et c'est pour ça que je dis le résultat, la vente, tu vois, l'argent que je lui transfère à lui, mon argent à moi que je lui transfère à lui pour le service, ce résultat-là, en fait, et ben, en fait, il ne dépend pas de lui, de ce coach-là, il ne dépend pas à lui, il y a la grande partie de la décision, elle est en moi, il a beau faire tout ce qu'il veut, il y a un moment donné, il y a un blocage, tu vois, chez moi qui est comme ça. Et en fait, ce résultat-là, c'est vrai qu'en fait, il dépend pas de nous. De même que le résultat de la transformation de tes clients, si tu fais du coaching, si tu vends des formations, etc. Par exemple, là, en ce moment, tu vois, je travaille sur une nouvelle formation pour aider des gens à courir plus vite. Donc, je transfère toutes mes méthodes, comment je fais moi, etc. Je ne peux pas me dire que je veux à 100% que tous les gens qui vont la suivre vont courir plus vite. Je ne sais pas combien de personnes vont vraiment écouter tout ce que j'ai fait, tous les modules, etc. Combien de personnes vont vraiment l'appliquer, combien de personnes vont avoir un résultat. Et j'ai d'autres programmes comme ça. Mais des fois, j'ai un message, une personne qui me dit, ben, grâce à toi, j'ai fait ça. Grâce à toi, j'ai suivi ça. J'ai suivi ce parcours-là, ça a bien marché, etc. Donc maintenant, je voudrais faire ça, etc. Et donc, je vois que ça marche. Ces témoignages-là sont toujours intéressants, sont bons à prendre. Mais le résultat qu'ont mes clients sur les méthodes que je leur transfère ne dépend pas de moi, en fait. C'est-à-dire que moi, le mieux que je puisse faire, c'est finalement de leur transférer le mieux que je sache, les méthodes, ce que j'ai appris, tout ce que j'ai appris. Quand j'ai des personnes en coaching, par exemple, sur le mode de vie, ce que j'appelle SAM, sommeil, alimentation, mouvement, sur ce mode de vie, par exemple, un coaching SAM pour être un meilleur entrepreneur, pour être mieux dans sa vie, pour être un meilleur sportif, pour avoir plus d'énergie, pour son boulot, pour entreprendre, etc. Le résultat final dépend de ce que va faire la personne. Et j'ai même des personnes, par exemple, qui abandonnent en cours de route, qui disent « Ah ben maintenant, j'ai d'autres priorités. » Ou « Maintenant, ça, je peux pas le faire. » Ou « Ben là, pour l'instant, c'est plus le moment. » Tu vois, qui vont arrêter en cours de route, qui vont avoir d'autres focus. Et qui ont pu avoir des résultats, mais le résultat, en fait, c'est eux qui l'ont créé, le résultat. Moi, j'aurais donné les outils, mais je peux pas dire « Je veux à 100% des résultats. » Donc finalement, si le moteur, ça doit pas être le résultat, c'est l'espoir qu'il y a un résultat, peut-être, ça peut être un moteur. Ni l'argent, ça peut être quoi, en fait, le moteur de ce que tu peux faire, de qu'est-ce qui va décider de ton plan de vol et du plan de vie qui t'en reste là maintenant. Ça peut être la liberté que peut te donner l'argent que tu auras si tu arrives à développer ton activité comme tu veux. Le mode de vie que tu peux construire. Pouvoir profiter de ton énergie maintenant, de ta famille maintenant. Par exemple, c'est un exemple que je donne souvent, ma fille n'aura plus jamais 5 ans et demi. Par exemple, quand ma fille est née, j'ai pu prendre du temps dans les mois qui précédaient, puis les mois qui suivaient, pour être toujours présent avec ma femme et puis avec ma fille. Il y a des séances, par exemple, je sais qu'on faisait des séances d'autonomie. On a fait des séances d'autonomie, c'est-à-dire communiquer avec l'enfant à travers les mains, etc. Je me rappelle de l'émotion que j'ai ressentie en faisant ces séances-là quand ma fille ma femme était enceinte, donc je sentais ma fille bouger et tout. Comment on sentait le corps venir et tout, taper, enfin. La sensation de la sentir bouger dans le ventre, c'est incroyable cette sensation-là. Et surtout quand t'es papa, parce que la maman, elle pose la main dessus, elle le sent. C'est vrai que quand t'es papa, c'est totalement différent, donc on avait des pratiques et tout. Mais toutes les séances d'autonomie qu'on a fait, c'était en journée, tu vois, des moments où normalement, si j'étais salarié, j'aurais été au boulot, il n'y avait pas de rendez-vous possible le soir. Peut-être que cette autonomie-là, ce moment-là, je ne l'aurais jamais fait. J'aurais peut-être jamais pu le faire si j'avais été salarié. De même que l'accompagnement à l'accouchement, tu vois, les séances d'accompagnement à l'accouchement, je me rappelle qu'il y avait beaucoup de femmes seules qui venaient. J'y allais avec ma femme, mais il y avait beaucoup de femmes seules qui venaient pour apprendre les respirations, pour apprendre cette technique, etc. Il n'y avait pas systématiquement toujours que les maris. Il y avait beaucoup de femmes qui étaient en congé maternité, qui venaient pour apprendre, etc. Mais beaucoup venaient seules aussi. Moi, j'avais décidé de pouvoir en profiter, etc. Ça fait partie d'un mode de vie, en fait. Ça fait partie du mode de vie. Ça fait partie du mode de vie que je voulais. Je t'ai parlé de mon aventure bikepacking de cet été. Voilà. Je ne sais pas. Je suis content d'avoir pu le faire cet été, d'avoir eu pour l'organisation, de pouvoir avoir eu du temps, des vacances avec ma fille, du temps de vacances avec ma fille, mais aussi du temps pour moi, etc. Et que si je regarde le cumul de temps que j'ai eu cet été pour faire mes aventures en vélo, mes aventures sportives, les vacances, etc. Très clairement, si j'étais salarié, je n'aurais eu pas du tout ce temps-là, mais vraiment pas du tout ce temps-là, parce que vraiment, j'ai largement dépassé le quota de congé qu'a un salarié, donc j'aurais dû avoir quoi, du sans sol, négocier des je sais pas quoi, etc. Mais je sais comment les autres étés ça se passait. Les autres étés, j'avais 2 semaines, 3 semaines de congé, il y a très longtemps quand j'étais salarié, 2 semaines, 3 semaines de congé. Et 2 semaines, 3 semaines de congé, ce que j'ai fait cet été ne passait pas dedans. Donc voilà, ce mode de vie-là est aussi possible parce qu'à un moment donné, je peux le faire par l'entrepreneuriat, par la construction d'un mode de vie. Alors, je veux, moi, personnellement, et je sais construire les conditions pour le faire maintenant. J'ai pas envie, en fait, d'attendre 25 ans, la retraite potentielle dans 25 ans, pour profiter de certaines choses. Je veux profiter de certaines choses maintenant. Je veux pouvoir me libérer de certains messages que j'ai pu entendre en me disant, faut absolument travailler de cette manière-là, faire ça, et toutes ces manières-là. Je veux m'épanouir de cette manière-là. Et en fait, me libérer de ce que j'ai intégré comme étant un modèle aussi, comme étant le modèle absolument à suivre. Et ça, pour moi, ce sont des vrais moteurs. C'est-à-dire que c'est un vrai moteur, et c'est aussi un moteur que j'ai envie de transmettre à ma fille. La liberté, lui dire tu peux choisir, tu peux faire telle ou telle chose. Tu n'es pas obligé d'avoir ce modèle-là, d'être dans ce fonctionnement-là, etc. Tu peux aussi avoir d'autres modèles qui existent. Et lui montrer que ce modèle existe, c'est pour moi aussi un vrai moteur, en fait. Lui dire, quand elle demande ce qu'on fait, c'est pas facile de lui expliquer ce qu'on fait. Hier, par exemple, on devait remplir une fiche pour l'école. Et bon, elle est à la maternelle, donc c'est pas les enfants qui remplissent la fiche. Mais sur la fiche, c'est demandé le travail. Quel métier je fais? Je me suis regardé, j'ai dit, bon, je mets quoi? Podcasteur, formateur, coach, etc. Et finalement, j'ai marqué le métier podcasteur et coach. Ce qui était pour moi inenvisageable. C'est-à-dire qu'à l'époque, marqué podcasteur, c'était un métier inenvisageable, qui n'existait pas, qui était impossible. C'est comme, alors j'aurais pu aller plus loin, j'aurais pu mettre youtubeur, mais youtubeur, j'ai envie de dire, la maîtresse, quand elle voit youtubeur, elle va se douter à peu près ce que c'est. Podcaster, elle va avoir un doute encore parce que le podcast est moins installé. Et je sais d'avance qu'il y aura des questions. Donc, si elle lit la fiche, elle va regarder, elle va dire, mais c'est quoi ce truc là, podcaster? Quel est ce métier? Quel est donc ce métier bizarre, etc., qu'il fait, etc. Mais, en fait, c'est une autre forme. Et quand ma fille, des fois, j'ai posé la question, je lui dis, mais comment tu peux expliquer ce que je fais comme travail? Est-ce que tu es capable de dire? Elle dit, tu fais des podcasts. Alors bien sûr, elle ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. Les formations, les coachings, la publicité sur les podcasts, tout ce que j'ai construit autour de ça, elle ne le voit pas. Petit à petit, je pourrais lui expliquer comment ça se passe, etc. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est de lui montrer que ben, il n'y a pas que la voix très classique, que parfois certains commencent à lui dire et qu'on peut avoir dans des livres, qu'on peut voir dans des dessins animés. Papa, il a fait un métier, il a pris tel métier, etc. Il va au boulot le matin, il prend son petit cartable, c'est-à-dire le modèle, ce que j'appelle le modèle Peppa Pig. Pourquoi j'appelle ça le modèle Peppa Pig? Parce que le modèle Peppa Pig, si vous avez jamais regardé Peppa Pig, je vais vous expliquer le truc. Dans Peppa Pig, on Peppa, dans sa famille cochon, la famille Pig, dans la famille Pig, en fait, c'est assez simple. Il y a Peppa qui a un petit frère, George. Maman s'occupe de la famille et papa va tous les matins, il prend son petit cartable, il va au travail dans une entreprise. C'est un peu critique hein, quand même, Peppa Pig, ça reste un peu d'humour anglais. Alors ma fille n'a peut-être pas très compris. Mais le boulot de papa, c'est juste de mettre des coups de tampon sur des feuilles en fait. Hein. Mais bon, tous les matins, il va au boulot. Et puis tous les soirs, il rentre et tout, comme ça. Donc ils ont une petite maison, une petite voiture et tout. Et puis ils ont la tante, je crois, qui a trouvé un nouveau boulot et qui elle a trouvé plein de boulot, etc. Mais qui travaille et tout. Donc les enfants, bah finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils apprennent à aller à l'école pour apprendre des trucs, avoir un métier, etc. Alors, ça reste des trucs des enfants, ils vont pas à l'université encore. Mais il y a cette espèce de modèle, en fait, un petit peu, qui est inscrit comme ça. Même s'ils le critiquent un petit peu, parce que finalement, on se rend compte que Peppa Pig, son seul boulot, quand un jour, sa fille va dire, mais tu fais quoi, papa, comme boulot? Tac, et puis sur des trucs. Alors, maman travaille aussi, en fait. Il y a des épisodes où maman travaille à la maison. Enfin, voilà. Et en fait, donc, elle tape sur un ordinateur. Et Peppa Pig, donc, il met des coups de tampon sur des feuilles. Quand Peppa Pig va voir son père au boulot, et en fait, il met des coups de tampon sur des feuilles. Boulot très intéressant, n'est-ce pas? Mais qui, en fait, c'est un modèle, quand même, qu'elle peut voir et tout. Et dans cette logique, des fois, elle m'en avait parlé. Elle me dit, bah tiens, y en a, et papa, il va au bureau, etc. et tout. Et elle s'est demandé, déjà, pourquoi nous, on n'allait pas au bureau. Bah oui, pourquoi nous, le bureau est à la maison, pourquoi nous, on va pas au bureau, etc. Cette différence-là existe. Et je trouve que c'est intéressant. Et pour moi, ça fait partie des moteurs. Si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que, finalement, en fait, quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, quand tu veux lancer une activité, qu'elle soit à temps plein ou que ce soit un changement de vie total, que tu veuilles te former dans des nouveaux trucs pour ton plaisir ou pour changer de vie totalement, que tu veuilles créer du contenu pour telle ou telle raison, quelles que soient les raisons que tu as trouvées, ces raisons t'appartiennent, elles sont à toi en fait. Et ces raisons, il faut pas que tu laisses en fait le monde extérieur décider que ces raisons sont bonnes ou mauvaises en fait. Moi je t'ai dit le driver, pour moi j'estime que le driver purement argent, il est très risqué, mais il y en a pour lequel c'est le seul driver. C'est le seul driver. Il dit, je vais absolument gagner beaucoup d'argent. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup LinkedIn, en fait, parce qu'il y en a beaucoup de ces messages-là qui remontent. Je pense que c'est pas le seul driver. Mais bien sûr que c'est un driver important. Je dis pas qu'il faut pas gagner d'argent. Je dis notamment que moi, j'ai fait un critique, j'avais dit que j'étais trop créateur et pas entrepreneur, que ma bascule à moi, c'est d'être plus entrepreneur et moins créateur. C'est-à-dire de finalement me centrer plus sur mes offres, proposer des offres, faire le marketing de mes offres, bien le travailler pour que mes offres se vendent mieux, etc. Tout cet aspect-là, et être moins dans l'esprit « je suis juste un créateur » et puis la page de vente ne m'intéresse pas, parce que finalement, à quoi ça sert de créer mes produits si finalement je ne suis pas une page de vente qui va convaincre les gens de me faire confiance, d'acheter ? Il ne sert à rien. Donc mon transfert, il se fait là-dedans. Donc je ne dis pas que l'argent ne sert à rien. Je dis juste que faut s'en méfier qu'il y a un moment donné, à partir d'un certain niveau, quand on a réussi à récupérer les revenus, j'ai envie de dire le revenu minimum qui nous permet de vivre, après on va grossir, on va avoir des revenus, et puis il y a un stade où à un moment donné, ça rime à quoi ? C'est qu'est-ce qui nous permet de payer, qu'est-ce qui nous permet de faire, etc. Oui, de quoi on a besoin, oui, mais est-ce que c'est le seul driver qui nous permet de ça ? Je pense pas. Sinon, moi, je serais resté salarié. Si c'était juste d'avoir un salaire qui me permet de payer tel ou tel truc, je serais resté salarié parce que j'ai eu un moment où j'étais salarié, où je pouvais travailler. Je faisais moins de choses que ce que j'ai fait quand on était entrepreneur, en gagnant deux fois plus, voire trois fois plus. Sur certains mois, donc voilà, c'est la réalité. Il y a des mois où, par exemple, beau faire des trucs et tout, on dit pas ça marche pas, ça marche pas. Hier, par exemple, je devais intervenir dans une conférence. On m'appelle, on me dit, bah non, la conférence est annulée. Votre conférence à vous était annulée. Bah, bam, tiens, donc ça veut dire que l'argent pour la conférence que je devais toucher, je l'ai pas. La décision m'appartient pas, hein. Vraiment, elle m'appartient pas. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que ça, c'est une mauvaise nouvelle, ce truc-là, etc. Et ça dépend pas de moi, en fait. Ça dépend pas de moi. Donc, si tout d'un coup, j'étais abattu dans ma journée parce que j'avais ce truc-là, qu'est-ce que je fais? Je dis, oh, punaise, c'est parti. Ah, punaise, si seulement j'avais été salarié. Ah, bah, tiens, il y a Auchan, ils cherchent un caissier. Bah, tiens, je vais faire caissier pendant 8 heures par jour. Ah, bah, tiens, ça pourrait tenir à l'esto. Et ça, c'est la réflexion qu'on peut avoir, mais qui vient, en fait, tout simplement, parce que, on est grandi comme ça, parce que c'est le modèle de société tel qu'il a été créé, tel qu'il est en train, peut-être, d'exploser, en tout cas, chez certains jeunes. Quoique, hein, j'ai eu des discussions avec certains jeunes il n'y a pas longtemps, dans la famille et tout, et où, à un moment donné, à force d'entendre ce message-là et finir par dire « oui, bon, maintenant, il va peut-être falloir que j'ai ma vie », et que finalement, la méthode la plus rapide trouvée, c'est pas d'aller dans une carrière un peu plus créative, de se dire par exemple, dans un cas, c'était de dire « tiens, j'ai fait des voyages pour vendre les photos de mes voyages, etc., faire des expositions, etc. » Non, finalement, c'est de revenir au métier appris parce que c'est plus simple, parce que c'est plus rapide, parce que il y a des opportunités qui se créent, etc. Bon, c'est un choix qui a été fait. Est-ce que ce choix est totalement fait rationnellement par les envies, etc.? Ça, je n'en sais rien. En tout cas, c'est le choix qui est fait. Moi, je sais, je me rends compte quand je regarde mon parcours, et c'est pour ça que c'est intéressant, que certains choix, en fait, ont été plutôt des choix faits par défaut ou des choix faits par pression, un petit peu, en me disant « mais faut absolument faire des études, faut absolument faire ça, faut absolument faire ça, faut absolument avoir un diplôme de tel niveau, faut absolument faire ça, etc. » Et puis quand t'arrives au bout, tu dis ah oui mais je fais quoi maintenant? Et puis il faut trouver un boulot, donc faut absolument ça. Et puis ça, et puis faut grossir, puis faut faire ça et tout. Regarde les choix, regarde ton plan de vie passé, ton plan de vol futur, où tu veux aller, où t'as envie d'aller. Pose-toi ces questions. Je trouve que ce sont des questions qui sont vraiment très intéressantes. Analyse un petit peu pourquoi tu as fait ces choix. Est-ce que tu les as vraiment fait pour toi? Est-ce que tu les as vraiment fait selon ce qui te plaisait? Et quels sont les choix que tu as envie de faire maintenant, en fait? Je te dis pas qu'il faut lâcher ton boulot là du jour au lendemain. Je te dis, tu peux devenir lancer une activité en annexe, en side business, etc. Tu peux prendre le temps de la développer. Il y a des amortisseurs aussi dans notre monde, dans notre société, etc. Comme les ruptures conventionnelles, comme le chômage, etc. Il y a tout un tas de systèmes, etc. Mais la question, c'est de se dire finalement, est-ce que si maintenant là, je prenais la décision de savoir ce que je veux construire pour mon futur, si je prends la décision moi-même, vraiment au fond de moi, en évacuant la pression de la famille, la pression de la société, la pression peut-être de collègues potentiels, de l'entourage, etc., proche ou large, l'entourage professionnel, quelle est la décision que j'ai envie de prendre maintenant? Elle n'est pas facile, elle va être critiquée. J'ai encore eu ce week-end une discussion en disant pourquoi s'est lancé dans ce métier-là, en parlant d'une cousine, mais pourquoi s'est lancé dans ce métier-là, mais est-ce qu'on peut vraiment vivre de ça et tout? Heureusement qu'elle a un mari qui fait ça, etc., parce que sinon ce serait pas possible. Voilà, c'est le genre de critique qu'on entend et puis qui va se rajouter des fois par « Ah bah tiens, lui, il a fait ça, bah tiens, c'est il a une belle vie, lui. Hein. » Voilà, mais ça veut dire que quand tu entends ce genre de message, quand tu entends ce genre de critique, eh ben, il faut te recentrer aussi sur le pourquoi tu veux le faire. Pourquoi tu veux peut-être maintenant dire « Bah non, le soir, au lieu de sortir, je vais passer du temps à construire, à me former sur tel ou tel truc, créer une offre, essayer de trouver des clients. Pourquoi je veux investir du temps pour prendre un coaching et faire telle ou telle chose? Pourquoi je veux me former là-dessus? Pourquoi j'ai pas envie de passer plus d'heures là-dedans à construire ma carrière et que j'ai plutôt envie de faire autre chose ?» Ce pourquoi, il est vraiment important. Note-le sur une feuille, prends du temps pour écrire dans un cahier, faire un journal, faire des schémas, des dessins, tout un tas de choses qui te permettront de l'écrire, vraiment de l'écrire, de l'exprimer. Prends du temps pour que ça s'exprime. Et puis, fais-en, moi, ce que j'appelle un peu ton manifeste personnel. C'est-à-dire que, à un moment donné, tu dois être capable de pouvoir l'exprimer juste en disant oui, bah, ouais, j'ai envie de faire ça. C'est pas vraiment une envie, tu vois. Enfin, c'est plus qu'une envie. Ça doit être un vrai moteur. Pour que ce soit un vrai moteur, en fait, faut que ça soit quelque chose, une conviction profonde. Quelque chose qui t'anime profondément, tu vois. De dire, bah, moi, il y a un truc qui m'énerve autour de moi et c'est ça et tout. J'ai vraiment envie de faire telle chose. Je pense que je peux faire quelque chose pour aider telle personne, pour faire telle chose, etc. Et j'ai vraiment envie de le faire. Et ça m'anime et que ça me fait bouger, etc. Et à partir de ce moment-là, quand tu as cette conviction forte en toi, c'est là où tu vas devenir aussi beaucoup plus précis sur ce que tu peux proposer, beaucoup plus précis personne que tu vas à qui tu vas t'adresser, que tu vas avoir aussi ce, tu vas devenir un petit peu ce qu'on appelle ce rôle modèle, tu sais, c'est-à-dire que ce modèle un peu différent des gens qui ont envie de suivre. Le rôle modèle qu'on a eu dans notre société, si je voulais finir là-dessus, c'est le rôle modèle du apprends bien à l'école, apprends bien tes études, fais des études, trouve un boulot, etc. C'est ça le modèle qui a été fait. Le modèle d'avoir une carrière entrepreneur, mais entrepreneur sur Internet, c'est un modèle qui, moi, quand j'étais petit, n'existait même pas. Internet n'existait pas, donc ça pouvait pas exister. Entrepreneur au sens large. Il n'y a pas que le modèle du start-upper, il y a aussi le modèle du, il y a eu le modèle du freelance, il y a le modèle du start-upper qui avait existé, d'avoir le modèle du solopreneur de créateur, coach, etc. C'est un modèle qui n'existe pas si finalement que ça. Et puis t'as beaucoup le modèle du coach, du consultant aussi, consultant, etc. et tout qui est, que tu peux voir et tout dans certaines formes. Il y a des modèles à réinventer. Tu peux être aussi un modèle, finalement, toi, en faisant les choses, à condition, finalement, de poser vraiment ta conviction. Pourquoi tu le fais? Pourquoi, ce que ça t'apporte à toi? Qu'est-ce que tu vas apporter aux autres? Comment tu veux le faire? Et vraiment d'être solide là-dessus, en fait. C'est pas juste te dire, j'ai une vague idée, j'ai une vague envie de faire ça. Si t'as juste une vague idée, une vague envie de faire ça, tu vas pas y arriver. Et si ta vague idée, c'est juste de dire, j'ai envie de remplacer rapidement les revenus que j'ai de mon salariat, par, des revenus d'entrepreneuriat parce que ça semble facile, etc. Là, détrompe-toi, en fait. Là-dessus, détrompe-toi. C'est beaucoup plus compliqué. Même en apparence, chez des gens pour qui ça marche bien, etc. Un fameux coach dont je parlais il y a pas longtemps et tout. Je me suis rendu compte parce qu'il a expliqué qu'il a failli faire faillite il y a pas si longtemps que ça, qu'il était obligé d'emprunter de l'argent à un ami, sur certains choix. J'ai vu une autre coach aussi qui a fait des choix, qui a décidé de prendre un autre boulot en plus de son coaching et tout. Ce qui peut poser des questions d'ailleurs, et elle passe beaucoup de temps à justifier de pourquoi elle a fait ça. Pourquoi est-ce qu'en gagnant beaucoup d'argent d'un côté, elle prend quand même un boulot salarié en plus à côté. Donc, voilà. C'est tout n'est pas rose chez tout le monde. Toutes les personnes, tu sais, j'ai l'habitude de dire que on ne voit jamais la tartine de merde. Toute personne a sa tartine de merde, tu la vois pas. La réalité, en fait, c'est que quand t'as une belle tartine de merde qui se présente, il faut que tu sois au clair sur ce que toi tu as envie de faire. Pourquoi tu le fais? Qu'est-ce qui t'anime? Quel est ton moteur? Quelles sont tes convictions profondes? Quelle est la conviction profonde que, en fait, tu choisis maintenant, en fait, le plan de vie qui te semble être le plus en adéquation avec ce que tu as envie de faire du reste de ta vie, pour ne pas avoir de regrets, de pas te dire « Ah, seulement si j'avais pu faire ça, ah, si seulement j'avais pris cette décision-là, etc. » Parce que dans quelques années, les opportunités que tu as maintenant ne seront plus là, parce que l'énergie que tu as maintenant ne seront plus là, parce que le temps que tu as maintenant, peut-être, ne sera plus là, parce que l'argent que peut-être tu peux investir maintenant dans certaines choses pour te former ne sera plus là. Tu ne sais pas de quoi sera fait, et peut-être que toi-même tu ne seras plus là. Bon, je sais, c'est un peu triste de dire comme ça, mais tu sais, souviens-toi que nous sommes mortels, hein, c'est la locution latine qui sert beaucoup au stoïcisme. Donc j'ai perdu le terme exact, mais rappelle-toi que tu vas mourir, c'est une logique imparable et qui devrait nous guider aussi à dire bah puisque de toute façon nous connaissons la fin mais que nous ne savons pas quelle est la date de fin, profitons de faire des choses tant que nous pouvons les faire. Et non, nous n'avons pas de date de péremption, donc nous pouvons nous lancer à tout moment. Et c'est pas parce que on a loupé peut-être une opportunité d'entreprendre quand on était plus jeune. Moi, j'ai fait de l'entrepreneuriat dans ma formation. Pendant 15 ans, je me suis pas servi du tout de ce que j'apprends en entrepreneuriat, des modèles, des conseils que j'avais pu recevoir et tout. Mais en fait, il n'est jamais trop tard. On n'a pas de date de péremption. Tu peux commencer à 40 ans, tu peux commencer à 50 ans, tu pourrais commencer même à 60 ans. Tu peux faire tellement de choses quand tu as la conviction que c'est la bonne chose. Et c'est vraiment ce que je voulais te dire dans cet épisode, qui est un peu plus long que ce que j'avais prévu. Mais je trouve que c'est un sujet qui est intéressant parce que je l'entends tellement souvent, ces messages et ce retour de dire « il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça ». Et je me dis à quel moment, en fait, j'ai vraiment décidé des choses de ce que je voulais faire et de comment je voulais le faire. Je sais que à quel moment j'ai décidé d'entreprendre et à quel moment j'ai décidé que c'était vraiment cette manière-là que je voulais construire les choses. Voilà. Moi, je sais pourquoi. Je t'en ai expliqué certaines de mes raisons. Je te demande pas de m'expliquer tes raisons. Par contre, tu peux me mettre un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça va aider le podcast à remonter. Je rappelle que je fais sur le mois d'octobre, en tout cas. Si tu écoutes cet épisode en octobre, je vous propose une offre à tous. Tous ceux qui ont participé, c'est-à-dire que si vous voulez aussi un commentaire sur Apple Podcast, je vais prendre parmi les commentaires du mois d'octobre sur Apple Podcast une personne et je ferai un coaching 30 minutes personnel, one-one, à l'une des personnes qui a laissé un commentaire sur Apple Podcast. Donc il y a un truc par contre que j'ai peut-être pas dit dans les épisodes précédents, c'est que pour que je puisse vous recontacter, il faut que je sache qui vous êtes et donc laissez-moi par exemple votre compte Instagram, quel est votre nom sur Instagram, votre hâte, quelque chose, pour que je puisse vous retrouver, vous recontacter, et que si c'est vous, que je puisse vous recontacter pour qu'on fasse le coaching ensemble. Voilà. Ou si c'est toi. En tout cas, sur ce, je te souhaite à toi et je vous souhaite à tous une très très belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau journal nouveau carnet de bord, et puis de nouvelles réflexions comme ça autour de l'entrepreneuriat, et puis de comment on peut construire les choses. Mais je pense que ce petit rappel de mindset, pour moi, était important à faire. Nous avons des choix à faire. Souvent, on les a fait un peu... On les a pas vraiment fait. Et puis, il y a des moments où c'est le moment de faire le choix. Et on peut faire des choix. Et c'est aussi très... très, comment dire, libérateur de faire ces choix. Donc, je t'encourage à les faire. Ciao, ciao !